France Bleu, RCFM. France Bleu. RCFM, Christina Luzzi, les experts.
Bonjour et bienvenue dans les experts et bon début de semaine à tous. Mardi 10 décembre aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous si vous êtes né un 10 décembre. On parle libido ce matin dans les experts. La libido a ses raisons que la raison ne connaît pas. Enfin si, un peu quand même. On va essayer de comprendre pourquoi parfois elle se fait la malle, comment le désir disparaît et surtout comment il peut réapparaître. Et pour cela, je serai en compagnie dans quelques minutes de deux psychanalystes et sexologues, Catherine Blanc et Alain Héril.
Les experts, 9h30, 10h30, Christina Luzzi.
Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine. Tu as gagné, je suis qu'un fou, un fou. Peur et confiance en moi, je prendrai ta douleur, tu verras ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine. Tu as gagné, je suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine. Tu as gagné, je suis qu'un fou.
De Bastia à Corté.
Fêtons Noël ensemble.
Et bienvenue à vous dans les experts. On parle sexo ce matin, libido avec le temps. La sexualité au sein d'un couple peut devenir monotone avec le risque de voir la libido de l'un ou de l'autre des partenaires s'éteindre, ou des deux peut-être. Quand le désir se fait la malle, c'est notre dossier du jour. Avec moi pour en parler ce matin, Alain Héril, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sexothérapeute et vous avez écrit « Je fantasme, donc je suis ce que nos fantasmes disent de nous » aux éditions Erol. À vos côtés, Catherine Blanc, bonjour.
Bonjour Christiana.
Vous êtes psychanalyste et sexologue et vous avez écrit La sexualité décomplexée, 50 idées reçues, revues et corrigées aux éditions Flammarion. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet hein, parce que j'ai reçu quand même des questions déjà. Puis je vous invite à nous appeler 04 95 32 22 22 pour poser toutes nos questions à nos experts du jour et continuez bien entendu à m'écrire sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Alors, le nombre de personnes qui consultent un sexologue en France ont multiplié par 4 en 15 ans. Premier motif de consultation, les troubles du désir. Est-ce que ce sont des troubles qui sont particulièrement répandus aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste qu'aujourd'hui on ose en parler plus ? Ou les deux peut-être d'ailleurs.
Alors, je prends la main.
Allez.
En fait, je pense qu'il y a un petit peu les deux choses, c'est-à-dire qu'on n'ose plus en parler, bien entendu, parce que d'un point de vue médiatique, le discours autour de la sexualité, autour du désir est plus présent qu'il ne l'était autrefois. Donc du coup, ça délie un petit peu les langues. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a, par rapport à la question du désir, quelque chose qui est sans aucun doute en amplification, parce que moi, c'est ce que j'ai rencontré dans mes consultations, c'est-à-dire des personnes qui me disaient qu'ils étaient dans une espèce de paradoxe avec un monde où le discours est ultra-sexualisé et avec, en fait, dans leur intimité, dans le rapport à eux-mêmes et dans le rapport à l'autre, une difficulté à vivre leur sexualité de manière épanouie, à être dans un rapport au désir qui soit simple et fécond. Donc, toutes ces choses-là sont extrêmement compliquées, bien entendu. Et puis, on le sait très bien, il y a aussi toute la question de la difficulté qu'il y a dans le couple et de la crise dans laquelle le couple est à l'heure actuelle, avec le désir qui est souvent considéré à l'intérieur du couple comme étant un espèce de baromètre de la relation. Donc je pense que l'explication, elle est multifactorielle, elle n'est pas simplement que sur un terrain ou sur un autre. Donc et de toute manière, le désir en soi est quelque chose de relativement complexe.
Est-ce que c'est quelque chose, Catherine Blanc, vous êtes aussi psychanalyste et sexologue, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez aussi auprès de vos patients ?
Oh, énormément, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec Alain Héril. La question du désir est devenue une question, en tout cas, s'exprime dans le cadre des cabinets de façon nette, parce que, évidemment, ce que propose la société au travers d'un discours libre sur la sexualité, en tout cas libéré sur la sexualité, fait de fait une injonction de performance, une injonction d'être à ce rendez-vous de la sexualité comme maître étalon de la qualité de la relation du couple et de la qualité, d'une façon générale, à jouir de la vie, puisque nous sommes dans une société de consommation qui nous propose de consommer tout et n'importe quoi pour jouir, comme si la seule raison d'être de l'être humain était la jouissance, sa jouissance absolue. Alors que d'autres générations savaient faire aussi avec le devoir, savaient faire aussi avec la frustration, en tout cas de façon plus nette, à tort bien souvent pour le champ de la sexualité, qui pouvait en souffrir un peu. Mais aujourd'hui, effectivement, toute la difficulté, c'est de retrouver cet équilibre entre la vie réelle qui est faite de plaisir, certes, de plaisir vers lesquels il nous faut courir, galoper ou marcher tranquillement, mais aussi le réel aussi de la vie qui est fait aussi d'un certain nombre de petites frustrations qui sont autant d'apprentissages pour la compréhension de soi et la repousse chaque fois un peu plus loin de ses propres limites. C'est-à-dire que la frustration est constructive aussi.
Exactement, mais c'est peut-être le fait qu'on est tout de suite aussi qui peut entrer en jeu. C'est ça aussi, la frustration. Aujourd'hui, quelque part, avec Internet, on a tout à portée de main, on est moins frustré quelque part. On n'est plus frustré du tout, on n'a plus à attendre les choses.
Bien sûr, on est une société de zapping. Dès que ce n'est pas dans la seconde, il n'y a qu'à voir un programme télé, par exemple. Si dans la seconde, je ne suis pas satisfait, je zappe. Donc il faut qu'il y ait en permanence de quoi me nourrir et de quoi nourrir mon plaisir. Et donc en fait, on est un peu comme des enfants, comme des nourrissons qui ne pouvons pas supporter l'idée de l'attente de l'autre. Or, c'est dans l'attente même de l'aboutissement de soi que se fabrique la plus grande possibilité sensibilité de nous-mêmes et la plus grande maturité, parce que sinon, évidemment, si je ne suis fait, si je ne vais qu'à la quête des plaisirs, inévitablement, je suis dans l'angoisse dès que je n'en ai pas, et du coup, ça me déstabilise considérablement au lieu de savoir éprouver les moments up comme les moments down.
Alain Ril, je rebondis sur ce que vous disiez. Vous parliez de désir comme baromètre d'une relation. Beaucoup pensent comme ça.
Oui, beaucoup pensent comme ça. Et ce que vient de dire Catherine Blanc est très important, parce que c'est vraiment le problème que ce qui va entraîner, c'est une confusion entre le désir et le besoin. Donc, et cette confusion fait que quand on a besoin de quelque chose, quand on a faim, quand on a soif, quand on a besoin de respirer, c'est quelque chose qui est très lié à nos instincts, qui est très basique. Et là, le désir est quelque chose qui se construit et il y a besoin d'y avoir justement cet espace-là et cette gestion de la frustration. Donc le problème de la question du désir, c'est que beaucoup de nos contemporains ont enregistré à travers le discours médiatique le fait que le désir et le désir sexuel est quelque chose qui est accumulatif. C'est parce qu'on va beaucoup faire l'amour que le couple va bien. Mais on se pose de moins en moins la question de la qualité du désir et non pas de sa quantité. Et donc, plus on va courir après quelque chose de quantitatif, et plus on va être dans la consommation du désir, dans la consommation de l'autre, et dans quelque chose qui finalement est une espèce de course sans fin, au bout de laquelle, au bout du compte, on a finalement très peu de satisfaction. Donc, je pense que les enjeux, ils sont là, c'est avoir la capacité d'attendre, de prendre son temps, d'aller vers l'autre, de mesurer l'espace qui nous sépare de l'autre. Et dans cet espace-là, il y a de la projection, il y a du fantasme, il y a tout ce qui constitue le désir, il y a aussi du mystère, voilà, toutes ces choses-là. Et quand il n'y a plus ces espaces-là et quand le rapport à l'autre se fait de manière très immédiate, là, on est dans un rapport à la sexualité qui est un rapport très, 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 très quantitatif. Et moi, c'est ce que je rencontre dans les couples qui peuvent consulter. C'est-à-dire que ils s'aperçoivent qu'il y a plus de désir, et parce que ils n'ont plus cette distance-là, ce mystère l'un par rapport à l'autre. Et c'est ça qu'il faut pouvoir reconquérir.
Et d'ailleurs, pardonnez-moi.
Oui, je vous en prie, Catherine.
Ce que dit Alain est très 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 important, parce que ce qui fait l'idée que les couples se font de la qualité de leur couple et de leur amour l'un pour l'autre, qui est censé être à la mesure du nombre de fois où ils font l'amour, devient la raison pour laquelle leur couple ne va pas, parce que justement il n'y a pas cette élaboration, il n'y a que l'expression d'un besoin confondu en effet avec un désir, et du coup une pauvreté, un peu comme on travaille, et quand on s'arrête, on n'a pas construit ce que l'on sait de soi, et du coup les gens meurent, ils meurent à la retraite, ils n'ont pas d'élaboration personnelle parce qu'ils se sont fait que dans une fabrication arbitraire et fantasque en quelque sorte, fantasmatique de la relation qui ne correspond pas à la réalité de leur grandir individuel dans la direction de l'autre ensuite.
Justement, est-ce qu'il y a une normalité, vous parliez de nombre de fois où on fait l'amour, est-ce qu'il y a une normalité? Qu'est-ce que vous dites aux couples qui viennent vous voir et qui vous disent, on ne fait pas assez l'amour, ou qu'est-ce que vous leur dites? Il y a une normalité?
Je pense que sexualité et normalité, ça va pas très bien ensemble, à partir du moment où on est justement sur le terrain du désir. Mais beaucoup de personnes se réfèrent aux statistiques qui vont constituer une espèce de norme. Et moi, j'ai eu plusieurs fois des couples, des personnes individuelles qui me disent on a une relation sexuelle par semaine, on n'est pas normal parce que on a lu que la statistique c'est 2 à 3 fois par semaine. Voilà, donc là on revient de nouveau, dès qu'on est sur le terrain de la normalité, on revient de nouveau à la question de l'addition, du quantitatif et
oui,
tous ces éléments-là. Je pense que, et puis en même temps, quand on regarde la vie d'un individu, notre sexualité, elle bouge avec le temps, avec les rencontres, avec l'expérience. Donc c'est nous-mêmes qui créons notre propre normalité. Mais force est de reconnaître que nos contemporains ont besoin de points de repère, de savoir comment ça se passe chez les voisins et pour savoir si eux, ils sont conformes ou pas conformes. Et donc, de fait, on en arrive à quelque chose qui finalement, quand on fonctionne par rapport à la norme, va banaliser la sexualité et, à mon avis, va l'appauvrir. Et du coup, ça entraîne beaucoup de culpabilité par rapport à ses fantasmes, par rapport à un certain nombre d'autres choses. Et la norme dans la sexualité est quelque chose qui a tendance à appauvrir
sexualité.
Et la norme est faite avec beaucoup d'idées reçues également sur la sexualité, qui sont la plupart des idées fausses.
Catherine, vous vouliez réagir?
Oui, surtout que la sexualité étant une créativité individuelle, d'où le fait que Alain disait justement que s'il n'est pas question, elle ne fait pas bon ménage nécessairement avec la norme, puisque c'est une créativité, chacun sa créativité, et dès lors que l'on est dans le quantitatif, on n'est plus dans la création. Or, la création, elle n'utilise pas toujours le vecteur seulement de la sexualité, ça peut être des tas d'autres créations, et il y a des moments dans la vie du couple où le couple ou l'individu où les individus créent d'autres choses et ne sont pas disposés à la sexualité parce que ce qu'ils créent leur demande beaucoup d'énergie, qui est la même énergie sexuelle, mais mise sur autre chose. Et donc, pouvoir imaginer qu'un couple s'appauvrit parce qu'il n'est pas dans la sexualité, c'est le priver de tout ce qu'il a à créer par ailleurs, qui nourrira sa sexualité future dans un autre temps qui sera peut-être plus fécond à ce moment-là.
Alors vous qui nous écoutez, vous le savez, si vous n'avez plus d'envie pour votre partenaire ou si vous avez connu des passages à vide et que vous avez réussi à les surmonter, vous pouvez nous appeler pour en parler, 04 95 32 22 22, ou si vous voulez poser toutes vos questions à nos invités du jour, vous pouvez continuer bien sûr à m'écrire sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Once again, just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm in love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm hell when I'm falling short.
Lauren Daigle, You Say.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
On parle sexo ce matin dans les experts. Avec le temps, la sexualité au sein d'un couple peut devenir monotone avec le risque de voir la libido de l'un ou de l'autre des partenaires s'éteindre, peut-être même des deux. Quand le désir se fait la malle, c'est notre dossier du jour. Avec moi pour en parler, Alain Héril, sexothérapeute, et Catherine Blanc, qui est psychanalyste également et sexologue. Alors, on parlait avant la pause de normalité, on parlait de langue qui se délie, donc un discours de plus en plus présent, mais on est quand même dans une ère de récession sexuelle. On observe un recul net dans le désir et les pratiques sexuelles, notamment aux États-Unis et au Japon. Au Japon, 40% des moins de 35 ans sont encore vierges, et on cite deux pays où l'industrie du sexe est particulièrement puissante. Est-ce que ça a un lien d'avoir le porno à portée de clic? Est-ce que ça coupe les ailes du désir, j'ai envie de dire?
C'est-à-dire que je pense que la pornographie, elle a une fonction, d'excitation qu'il ne faut pas nier. Le problème par rapport à la pornographie, c'est sa consommation de manière excessive. Et le problème, c'est que quand l'image pornographique devient le seul relais de la mise en place du désir, là encore, il y a quelque chose qui s'appauvrit, parce que l'image pornographique et le film pornographique ou la vignette pornographique, elle est sans surprise. Quand on commence à regarder une vignette pornographique, on sait très bien ce qu'on va voir, on sait très bien comment ça va se dérouler. Donc c'est la pornographie, c'est presque tout l'inverse du fantasme. C'est pas un univers fantasmatique, c'est un univers d'excitation directe, génitale. Et alors, je ne sais pas, d'un point de vue sociologique, c'est quand même intéressant à regarder ce qui se passe aux États-Unis et au Japon, où effectivement il y a une pornographie qui est relativement développée. Mais je pense que ça touche pas que le Japon et les États-Unis. Il y a deux ans, il y a une grande enquête qui est sortie dans le journal The Atlantic qui laissait entendre que les populations de 16-25 ans en Occident étaient de moins en moins intéressées par la sexualité, et à la limite, au niveau des images, étaient de plus en plus intéressées par les jeux vidéo plus que par la pornographie en elle-même. Donc c'est presque comme si trop d'images pornographiques tuaient le désir d'une certaine manière.
Oui, c'est ça, on est à l'âge du libre accès, et quelque part, on a l'impression qu'il y a tout qui est fait pour qu'il n'y ait plus de sexe, hein, Catherine Blanc.
Ben oui, parce que pour le coup, il n'y a plus de créativité, puisque les images sont proposées et font loi. Et évidemment, nous sommes tous un peu fainéants, hein, dans la mesure où tout nous est apporté un peu mâché et déjà écrit. La difficulté, celle de tout le monde, hein, c'est de tout d'un coup aller construire, créer, rêver ailleurs, imaginer autre chose. Ça devient un enfermement dans lequel on se laisse porter. Et du coup, effectivement, ça affaiblit considérablement l'idée de la sexualité comme un projet personnel. Et comme évidemment la pornographie enlève toute idée d'histoire relationnelle, évidemment elle donne une idée assez violente, encore une fois, même si l'acte ne l'est pas, par sa réduction elle donne une idée violente de la relation des deux protagonistes de l'histoire, ce qui confronte les gens à cette violence et la culpabilité potentiellement qu'ils peuvent en avoir dès lors qu'ils en sont acteurs, ou aussi une idée un peu dégradée d'eux-mêmes. Et donc, de fait, il fuit ce qui les envahisse que trop, ce qui fait que ce pulsionnel, tout d'un coup, est perçu comme une certaine sauvagerie. Quand je dis sauvagerie, encore une fois, il n'y a aucun jugement. C'est au sens que ça manque d'élaboration et de construction et d'écriture.
On a une première question d'une auditrice sur Facebook. Marilyn, 35 ans. J'ai un petit garçon de 3 ans et depuis mon accouchement, je n'ai plus du tout de désir pour mon conjoint. Je précise que j'aime mon conjoint et je ne sais plus que faire. Qu'est-ce qu'on lui conseille de vous consulter tous les deux?
Alors, vas-y, allez.
Alain,
Héril. Oui, c'est-à-dire que je dirais presque, là, on parlait de normalité tout à l'heure, je vais y en venir. Ça me paraît relativement normal ce qui lui arrive, parce que lorsqu'on a engagé tellement de choses dans la grossesse et que l'enfant est là, il y a normalement ce qu'on appelle en psychanalyse un déplacement libidinal, c'est-à-dire que sa libido s'organise autour de la présence de cet enfant, et donc c'est une espèce de sublimation d'énergie sexuelle au service de la maternité et au service de ce lien extrêmement particulier qu'il y a entre une mère et son enfant. Donc il n'y a pas lieu tout de suite de mettre de la pathologie là-dessus et de faire en sorte que ce soit, même si elle en souffre et qu'elle se pose des questions, et elle le dit elle-même, elle dit « je ne désire plus mon compagnon, mais je continue à l'aimer ». Donc c'est simplement de l'accompagner à traverser ce moment-là avec l'idée que le désir, il peut tout à fait revenir un petit peu plus tard. Parce que l'une des fonctions du désir, c'est quand même le fait qu'il est fluctuant et qu'on n'est pas toujours toujours désirant à 100%, qu'on n'est pas toujours en route et que la sexualité, l'énergie sexuelle, la libido, elle peut s'organiser sur d'autres terrains que la sexualité directe. Ça peut être le travail, là en l'occurrence, c'est la construction de la maternité. Donc moi, je ne porte pas sur ce qu'elle vient de dire un regard obligatoirement déficient, pathologique ou autre. Il faut juste accompagner ce moment, le traverser, et puis autre chose viendra, le désir reviendra d'une autre manière un petit peu plus tard. Là encore, c'est nécessaire d'attendre et puis éventuellement de traverser cette éventuelle frustration.
Oui, voilà. Catherine Blanc, vous vouliez.
Et justement, d'ailleurs, les hommes peuvent observer que eux-mêmes, pendant ce temps-là, notamment pendant le temps de la grossesse, ils redoublent souvent d'énergie à l'extérieur de leur foyer, travailler, gagner de l'argent, etc., assez naturellement. Alors certains non, hein, bien sûr, mais pour nombre d'entre eux, il y a tout d'un coup une urgence d'aller vers ce projet de papa. Monsieur de Cro-Magnon, il serait allé chasser pour aller faire des réserves pour pouvoir justement faire en sorte que et sa compagne et son bébé puissent survivre. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voudrions que une fois une femme vient d'accoucher, et bien tout d'un coup, l'homme est là à attendre, savoir s'il va être encore aimé, s'il est toujours aimé de même manière, toujours objet de désir et toujours très virilisé par elle, par son désir pour lui. Et c'est évidemment justement la marche à ne pas suivre, parce que du coup elle n'entend pas un homme dans sa virilité mais bien un enfant dans sa plainte, et du coup elle se retrouve avec deux bébés, donc ce qui évidemment, vous pensez bien, n'a pas lieu de susciter le moindre érotisme, parce que sinon ça aurait un caractère incestuel. Donc de fait, c'est en effet prendre le temps et la mesure de cet émerveillement pour ces deux parents autour de ce bébé qu'ils ont fabriqué par leur sexualité, par leur jouissance de projet ou leur jouissance sexuelle, gardant ce lien et dans cet émerveillement en direction de leur petit, eh bien ils sont unis et retrouvent le lien naturellement de leur sexualité. Mais c'est bien quand d'une part une femme se réduit à sa maternité et a le sentiment en quelque sorte que son enfant lui a pris toute cette énergie-là, toute son énergie à elle, qu'elle a du mal à resexualiser sa vie, et quand un homme à côté est en plainte enfantine, donc en besoin et non en désir, que évidemment elle le repousse tout à fait inconsciemment d'ailleurs, parce qu'elle ne peut pas faire l'amour avec un bébé. Et donc c'est là que ça pêche et que ça dure un peu trop longtemps, évidemment. Et puis n'oublions pas qu'une femme qui allait, par exemple, par rapport à une qui n'allaiterait pas, mais une femme qui allait, produit aussi une hormone, la prolactine, qui empêche son érotisation, puisque c'est une hormone anti-érotique, et qui a le mérite justement de permettre qu'elle puisse s'adonner tranquillement, enfin que son corps soit disponible pour pouvoir allaiter, ce qui est une très bonne chose. Donc là encore, laissons le temps au temps, et chaque période, son émerveillement et ses capacités.
On va revenir là-dessus. 04 95 32 22 22 si vous voulez poser toutes vos questions à nos invités.
L'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse vous accompagne dans vos projets d'urbanisme. Conseil, accompagnement et soutien des projets dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de la maîtrise de l'énergie. Collettività, gente, imprese, l'AUE affianca voi. Informazione www.aue.corsica.
Vous êtes travailleur indépendant ? À partir du 1er janvier 2020, suite à la suppression du RSI, votre protection sociale évolue. Mais rassurez-vous, ce changement est automatique, vous n'avez rien à faire. Vos droits et vos cotisations restent les mêmes. Seuls vos interlocuteurs changent. Pour votre santé, vous serez rattaché à l'assurance maladie, pour votre retraite à l'assurance retraite, et vous continuerez à verser vos cotisations à l'URSSAF. Pour toute question, appelez le 3648 ou rendez-vous sur sécu-indépendant.fr. 3648, service gratuit, plus prix d'appel.
Oui.
Kudam pour agir plus d'EDF. A collectivité d'Igor Siga et l'ADEME. L'énergie a une autre ABN. Tenimou la con.
Mais aujourd'hui, le temps est bien ensoleillé, même si quelques pachas nuageux circulent sur le relief. En matinée, vent de nord, localement assez fort après une atténuation. Vent s'établissant en début de soirée à l'est-nord-est dans le Cap Corse pour les températures maximales comprises entre 14 et 17 degrés sur le pourtour du département. Ailleurs, comprises entre 9 et 12 degrés. RCF FM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, avec une journée de mobilisation en Corse contre la réforme des retraites. Trois manifestations chez nous, une à Bastia, dans quelques instants, départ du palais de justice. Une autre à Porto Vecchio en début d'après-midi, 15h, rendez-vous aux quatre chemins. Et puis à 15h30 à Ajaccio, c'est de la place de la gare que les manifestants vont partir pour retrouver la préfecture en passant par le cours Napoléon. Les responsables syndicaux seront reçus par la préfète de région. 30% de grévistes dans le premier degré, des écoles sont fermées ce matin. Des perturbations aussi dans les collèges et lycées. Perturbations également dans les transports. Air Corsica a annoncé maintenir son programme de vol, mais précise déjà des retards possibles en raison du contrôle aérien. Et ça s'est vérifié. Un quart d'heure ou une demi-heure de retard ce matin au décollage des vols de Corse vers Paris et Marseille. Du côté des chemins de fer, les grandes lignes Ajaccio-Bastia ne fonctionnent pas. L'antenne de France Bleu est perturbée aujourd'hui en raison de ce mouvement national de contestation contre la réforme des retraites. Vous ne retrouverez donc pas l'intégralité de nos programmes aujourd'hui. La répression contre la jeunesse ne sera jamais une réponse au problème national corse. C'est la réponse de Corinne Front. Et après l'interpellation d'hier, 11 personnes appréhendées dans le cadre d'une enquête menée par le parquet national antiterroriste pour une série d'explosions ou de tentatives de destruction de résidences secondaires avant la venue en Corse d'Emmanuel Macron en avril dernier. Ayoutou Baïzan appelle de son côté à un rassemblement 18h devant le commissariat de Bastia. Un gros poisson de la Ligue 1 pour Bastia Borg en 32e de finale de la Coupe de France de foot. Les joueurs du président Dominici ont hérité hier soir du club mythique de l'AS Saint-Étienne. Le match se jouera le samedi 4 ou le dimanche 5 janvier prochain, très vraisemblablement au stade Armand Chez, à Ria Fouriagne. Les dirigeants de Borgo en feront la demande dès cette semaine auprès de la communauté d'agglomération de Bastia. Une belle occasion de briller pour les joueurs de Jean-André Ottaviani, actuellement 12e sur 18 dans leur championnat de National 1.
Merci Didier, on vous retrouve à 11h pour l'actualité.
Nouveau rendez-vous, info proximité sur France 3 Corse via Stil. Buongiorno Lug vous donne la parole. Daubaez escantado, in core digita, in dei quartieri, cull'artigiani o l'impresari, via Stil sera vigina voi. Entre qualité de vie et difficultés du quotidien, les journalistes de la rédaction viennent à votre rencontre dans votre quartier, votre entreprise ou votre village. Buongiorno, un logo à voir du lundi au vendredi à 11h50 et 18h50 sur via Stil et en replay sur corse.france3.fr.
Vous êtes travailleur indépendant ? À partir du 1er janvier 2020, suite à la suppression du RSI, votre protection sociale évolue. Mais rassurez-vous, ce changement est automatique, vous n'avez rien à faire. Vos droits et vos cotisations restent les mêmes. Seuls vos interlocuteurs changent. Pour votre santé, vous serez rattaché à l'assurance maladie, pour votre retraite à l'assurance retraite, et vous continuerez à verser vos cotisations à l'URSSAF. Pour toute question, appelez le 3648 ou rendez-vous sur sécu-indépendant.fr. 3648, service gratuit, plus prix d'appel.
Bell'anima sur RCFM.
Pour dépasser ce qui est passé, vous devez prendre du recul. On s'imagine que l'autre est la prolongation de soi-même. C'est faux. Et si tous les jours nous contrôlons notre dialogue interne, on apprendrait à être un peu plus, de plus en plus heureux.
Retrouvez Bell'anima avec Marie-Ange Coupe tous les jours à 12h40.
Pourquoi pas aimer quelqu'un de différent ? C'est fuir pour ne pas oser affronter. Mais vous ne passez pas une journée sans téléphoner à ceux que vous aimez, vous avez constamment peur de perdre les amis, l'amoureux ou l'amoureuse. Hein.
Bell'anima à retrouver également en podcast.
France Bleu, RCFM.
RCFM, Christine Alouzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans les experts. Si vous nous joignez aujourd'hui, on parle sexo. Quand le désir dans le couple se fait la malle, c'est la question qui nous préoccupe ce matin. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou sur notre compte Instagram France Bleu RCFM ou nous appeler au 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions à nos experts du jour. Alain Héril, sexothérapeute, auteur de Je fantasme, donc je suis, ce que nos fantasmes disent de nous, aux éditions Erol. Et Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue, auteur de La sexualité décomplexée, 50 idées reçues, revues et corrigées aux éditions Flammarion.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Alors, on revient quelques minutes sur le cas de Maréline, 35 ans, qui nous disait « J'ai un petit garçon de 3 ans et depuis mon accouchement, je n'ai plus du tout de désir pour mon conjoint. Je précise que j'aime mon conjoint, je ne sais plus quoi faire. » Alors, vous n'étiez pas très alarmant sur le cas de Maréline. Est-ce que c'est fréquent que l'arrivée d'un enfant puisse bouleverser la vie intime du couple ?
Oui, c'est quelque chose de fréquent et je dirais presque que c'est l'inverse qui m'inquiéterait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant arrive dans un couple, on passe de 2 à 3, donc là le système relationnel va forcément s'organiser différemment, le désir va circuler aussi différemment et ça me paraît normal que à partir du moment où on passe d'une relation qui est une relation entre amants à une relation qui est une relation où il y a une construction qui est de l'ordre de la famille, qu'il y ait quelque chose qui soit modifié, que ça bouleverse. Ce qui serait un petit peu paradoxal, c'est de vouloir que ça continue comme avant, alors qu'il y a quand même un élément nouveau et pas n'importe lequel, c'est l'arrivée d'un enfant. Donc ça bouleverse le désir, oui bien sûr, mais ça peut aussi l'arrivée d'un enfant révéler une problématique relationnelle qui existait auparavant et qui va à ce moment-là prendre un petit peu plus de place dans le couple, mais bon, c'est obligatoirement quelque chose qui est de l'ordre du bouleversement, bien sûr.
Et puis il y a aussi le passage, notamment lors de la première parentalité, il y a aussi le passage, quand bien même le couple est déjà adulte, mais de la posture psychique d'enfant qui joue et élabore dans la sexualité, etc. Quand je dis d'enfant, d'adolescent, en tout cas la posture d'enfant par rapport à ses propres parents, et là on devient parent soi-même. Donc de fait, au moment où l'on devient parent, on réenvisage toute sa position, les enjeux de cette nouvelle position, du devenir parent, de l'idée que l'on a eue de ses parents et du rapport que l'on avait nous-mêmes en tant qu'enfant avec eux, et bien ça se rejoue dans cette nouvelle triade que l'on forme avec l'enfant.
Et combien de temps ça peut durer pour essayer de rassurer un petit peu Maréline? Elle nous dit que son fils a 3 ans, ça peut durer combien de temps? Bien qu'il n'y ait pas de normalité, on l'a bien compris. Hein. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, je dirais, pour retrouver un petit peu cet équilibre?
Moi, je pense qu'il y a avant toute chose un travail par rapport à elle-même, parce que retrouver cet équilibre, c'est peut-être revenir à elle, c'est-à-dire qu'elle est mère depuis 3 ans, mais a-t-elle retrouvé un rapport à elle sur sa dimension de femme, sur le rapport à son corps, sur la manière dont elle est désirante et non pas forcément désirée, c'est-à-dire que il y a tous ces éléments-là qu'il faut retrouver. Je pense que c'est aussi quelque chose qui concerne chacun dans la remise en place d'une mobilisation par rapport à l'être sexuel que l'on peut être. Donc c'est aussi dans le lien à soi que ça se reconstruit. Et évidemment, moi, par rapport à ça, je ne peux pas donner de termes, de temps qui serait le temps idéal ou le temps normalisé. Ça va dépendre bien sûr de chacun, mais je pense que ça questionne aussi chez cette auditrice, ça questionne aussi où en est-elle maintenant de son rapport à la féminité, de son rapport au féminin, de son rapport à la sexualité, mais dans le lien à elle-même. Et je pense que son compagnon a aussi à se poser cette question, parce que lorsque, c'est un petit peu ce que Catherine disait tout à l'heure, lorsque l'enfant arrive, ça vient questionner notre rapport à la maturité et l'adulte que nous devenons. L'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est un processus initiatique qui nous permet de nous confronter avec d'autres éléments de nous-mêmes, et notamment avec des éléments de maturité. À partir du moment où on est père ou mère, on n'est plus le fils ou la fille de son père ou de sa mère. On devient le père de son enfant. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse et qui doit interroger chacun dans son rapport à lui-même et dans sa construction psychique, relationnelle et bien entendu sexuelle.
Vous vouliez compléter, Catherine Blanc. Catherine ? On l'a perdu. Non, mais je croyais qu'elle voulait réagir, donc du coup, non, mais c'est pas grave. On va poursuivre. Du coup, donc pas de question de normalité. Hein, il faut simplement réapprendre à vivre avec cette troisième personne dans le foyer et voilà et trouver des moments pour soi peut-être.
Oui. Et puis, je pense que cette auditrice, mais comme beaucoup de femmes qui sont dans ce vécu-là, voilà, doit apprendre comment elle est passée de fille à femme, de femme à mère, et de nouveau retrouver une féminité qui ne sera pas celle d'autrefois, mais qui est une nouvelle féminité qu'il faut reconstruire, et peut-être avec des modalités de désir. De désirs sexuels qui vont être différents depuis qu'elle est mère. Donc c'est vraiment une aventure par rapport à soi-même. Et je comprends très bien. Je veux pas trop banaliser non plus.
Non, bien entendu. Non, mais après ça peut se comprendre. Il y a la fatigue. Oui, il y a les nuits sans dormir. Il y a plein de choses quand on a un enfant.
Ah ben oui. Et puis c'est quand même une réorganisation du quotidien qui n'est pas simple, bien entendu. Ça réorganise tout. Et puis il y a ce petit être qui est là, qui réclame, qui occupe de l'espace et avec lequel il faut composer. Et puis vous avez raison, de façon tout à fait basique, oui, il y a la fatigue, il y a des interrogations aussi. Suis-je une bonne mère, suis-je un bon père et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et donc tout ça fait que naturellement le désir sexuel il va peut-être être mis un petit peu dans l'arrière-boutique avant de revenir un petit peu plus tard.
Catherine Blanc, Catherine voulait réagir, je crois.
Oui, c'était juste dire que moi je trouve que c'est un moment qui est extrêmement douloureux, effectivement, pour les couples, pour la mère, mais pour le père également. Mais c'est un moment extrêmement intéressant parce que Alain disait, retrouver sa féminité. C'est presque la trouver enfin. J'allais dire la trouver enfin parce que, en effet, ce n'est plus dans l'idée que l'on se fait de ce que l'on attend de moi, ce que la société attend de moi pour que je devienne une jeune adulte, ce que mon compagnon attend de moi pour me faire femme à l'orée de son propre désir, ce qu'un nourrisson attend de moi. C'est tout d'un coup qu'est-ce que j'attends moi-même de moi-même. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que les femmes découvrent majoritairement, donc encore une fois, je parle pas de normes au sens de la normalité, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas, mais bien au sens du plus grand nombre, ce que l'on observe, c'est que les jouissances et les orgasmes sont plutôt rencontrés tardivement dans la sexualité d'une femme, aux environs de 35-40 ans, alors qu'on pourrait penser que ça émerge en même temps que leur sexualité, mais parce que pour atteindre ces espaces de jouissance forts, il faut être tout à soi, et non pas la source de l'autre, ou perdu dans le désir de l'autre. Et donc il y a un moment de vacances au moment de cette maternité, d'un épuisement physique certes, mais aussi un épuisement psychique à être la source du désir de l'autre. Et il y a un besoin à ce moment-là d'opposition à cet homme en disant non au prétexte d'une réelle fatigue, bien sûr, des moments aussi de difficulté vis-à-vis de son propre enfant qui est presque tyrannique quant à soi, pour petit à petit se réapproprier son propre projet, tout en restant bien sûr dans l'amour des siens et donc de son homme et de son bébé. Mais c'est un moment vraiment extrêmement important. Il y a un enjeu qui est colossal et qui n'est pas l'enjeu de la sexualité pour se remettre en selle, mais qui est vraiment un enjeu colossal identitaire pour la femme.
Donc un moment très important à ne pas surtout à ne pas bâcler, j'ai envie de dire. Il faut vraiment prendre son temps.
À ne pas bâcler et pas s'endormir. Parce que en fait, la question n'est pas, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que le couple pourrait y perdre pied, ou l'homme pourrait aller voir ailleurs.
Oui, c'est ça, je pense, qui inquiète les femmes. On peut se dire, finalement, il peut, comme vous dites, aller voir ailleurs ou...
Voilà, mais là, c'est encore... Moi, j'ai beaucoup, et j'imagine qu'Alain, c'est la même chose. Nous rencontrons beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire envoyées par les maris qui menacent de partir, ou les femmes qui supposent que les maris partiront. Alors, évidemment, elles ne viennent que animées du désir d'avoir du désir pour celui qui a du désir, et non pas pour elles-mêmes, ce qui est évidemment pas la bonne porte d'entrée. C'est... Mais moi, pourquoi je ne pourrais pas m'investir? N'ai-je pas le plus grand intérêt pour moi-même à découvrir enfin ce que la sexualité peut représenter pour moi et non pas ce qu'elle peut représenter de moyen d'attachement à un homme ou de moyen de fabrication d'un bébé. Et dans un premier temps, toute femme va vers la sexualité non pas tant animée par le désir pour le désir, mais animée encore, c'est en train d'évoluer cette dernière génération, mais animée du désir de faire partie d'une société qui va me repérer comme étant une adulte, parce que je suis désirée par un homme qui me désigne comme étant potentiellement sa compagne ou sa femme, ou parce que je vais pouvoir faire des bébés qui va me manifester socialement comme étant en capacité de fertilité et donc de maternité et donc de pouvoir. Et en fait, c'est pas là. C'est intéressant tout ça. Ce sont des étapes de sa vie, mais il y a une nouvelle étape, que là, justement, je parlais de frustration, et bien que la frustration qui se joue là, dans la difficulté à être au rendez-vous de tous, oblige à se questionner le rendez-vous de soi, et dans la relation et dans la tendresse accordée à son partenaire, évidemment, c'est l'aider à en comprendre les enjeux et le bénéfice qu'il pourra en retirer lui-même.
Donc c'est vraiment une question du couple global et non pas que de la femme ou que de l'homme.
Bien sûr. Non, parce qu'elle n'a pas un problème, elle n'est pas malade, elle n'a pas un symptôme pathologique de quelque ordre que ce soit. Elle est dans un temps important, crucial de son existence.
Alors, si vous avez des questions aussi pour nos experts, vous pouvez nous appeler 04 95 32 22 22. Si vous avez connu des passages à vide et que vous avez réussi à surmonter, vous pouvez nous appeler pour nous en parler, pour nous raconter comment ça s'est passé. Patricia vous accueille au standard. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose qui arrive.
Alors, tes cadeaux.
Oui, oui, vous l'attendez tous les jours, ce petit jingle. On va ouvrir la case du calendrier de l'Avent des experts du jour. Ça sera tout de suite après ça.
C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt. Et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il n'y a plus de saison. Pendant que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien, on se demande s'il est trop tard et ce qu'on peut faire au quotidien. Tous ensemble sur le même bateau, les femmes et les enfants d'abord. Y'a qu'à regarder les infos, les drames, les ouragans dehors. Les incendies sont en option. Non mais franchement, y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Le ciel. On se dit que l'homme est capable autant du meilleur que du pire. Et toutes ces images nous accablent quand un autre continent transpire. On a construit des grands musées, des cathédrales et des jocondes. On va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde. Y'a pas urgence de toute façon, les océans vous le diront. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. C'est ma avait raison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On regarde nos mômes jouer aux billes dans les caniveaux de la
planète. On s'inquiète du soleil qui brille comme une épée au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Est-ce que la Terre pourra tourner quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés? Et aux futures générations, est-ce qu'on va demander pardon? Y a plus de saisons, y a plus de saisons. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y a plus de saisons, y a plus de saisons. Le ciel est noir à l'horizon. Y a plus de saisons, y a plus de saisons. C'est ma grand-mère qui avait raison.
Y a plus de saisons sur RCFM.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Alouds.
Et les plus beaux cadeaux vous attendent tous les jours en direct dans Les Experts et vous gagnerez aussi, l'auditeur ou l'auditrice qui sera avec moi dans quelques secondes pourra participer au grand tirage au sort de vendredi pour remporter une nuit avec petit déjeuner dans un établissement que j'adore, le Sofitel Portiche. Et vous aussi, vous pouvez participer parce que quand je lance le jeu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels au standard. Évidemment, il n'y a qu'une seule personne qui peut passer à l'antenne par jour. Donc pour ça, on a ouvert aussi pour gagner vos tickets pour le tirage au sort. Vous pouvez participer sur notre compte Instagram. Je vous invite à y aller. Alors, on a un auditeur ou une auditrice? Bonjour.
Bonjour.
Et c'est une auditrice. Marie-Josée, bonjour. Vous appelez d'Ajaccio?
Oui, oui, d'Ajaccio, oui.
Alors, vous nous suivez tous les jours?
Ah, tous les jours, oui.
Ah, super. Alors, encore un beau cadeau, un cadeau exceptionnel ce matin. On vous fait gagner un de mes indispensables beautés. C'est mon sérum booster visage de la marque Nuka, la marque Porto Vecchiese. Vous connaissez?
Non, non, pas du tout.
Bon, ben voilà, vous allez avoir un visage reposé, unifié, super éclatant. Et vous penserez à moi, comme ça, devant votre glace. Et puis je précise que toute cette belle gamme est concoctée avec en majorité, en partie, des plantes et de la cire d'abeille issue de notre cher maquis. Mmh. En plus, voilà. Vous êtes gâtée, Marie-Josée.
Merci.
Vous êtes contente?
Ah oui, oui, oui.
Bon, bah, c'est super. Mais continuez à nous écouter. Et puis vous savez que vous participez au tirage au sort vendredi. Alors peut-être qu'on se reparlera à la fin de la semaine, puisque vous participez au tirage au sort pour remporter une nuit pour deux personnes en petit déjeuner au Sofitel de Portiche.
Merci.
Ben voilà. Donc peut-être à vendredi. On croise les doigts.
Allez, bonne journée. Merci.
Bonne journée. Merci Marie-Josée. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Alouds.
On parle sexo ce matin dans Les Experts, quand le désir dans le couple se fait la malle, avec nos invités Alain Héril, sexothérapeute, et Catherine Blanc, psychanalyste également, et sexologue. Alors, on parlait du cas de Marilyn, sur lequel on est resté un petit moment, hein, sur le moment important qui était la pré-maternité, donc il fallait vraiment prendre son temps et vraiment traiter ce problème, entre guillemets, qui n'en est pas un, vous l'avez dit, mais vraiment dans sa globalité, c'est-à-dire dans le couple, et pas simplement ou de la femme ou de l'homme. Donc très important. On aurait pourtant envie peut-être que la lune de miel entre guillemets dure éternellement.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est intéressant qu'on a envie que la lune de miel dure éternellement, et c'est intéressant qu'elle ne dure pas éternellement, parce que ça veut dire que on est obligé de faire un effort, si je puis dire, de se poser des questions, de mobiliser un certain nombre d'éléments par rapport à son couple, pour que effectivement soit le désir revienne, soit qu'une autre forme de désir s'installe à l'intérieur du couple. C'est-à-dire que le désir, c'est quelque chose dans sa fluctuation qui ne nous laisse pas tranquille. C'est on voudrait que ça soit confortable, mais c'est inconfortable. Donc du coup, il y a continuellement quelque chose à gagner, quelque chose à remettre sur le tapis, si je puis dire, par rapport au couple. Et je trouve que ce mouvement-là est un mouvement qui mobilise le désir. C'est tout l'inverse d'un espèce d'état dépressif où on lâche l'affaire, où il n'existe plus rien. C'est ce jeu entre, voilà, je voudrais que ça dure tout le temps, je voudrais que le désir soit toujours au rendez-vous, et en même temps, s'apercevoir que c'est pas le cas, et comment on fait pour essayer de faire en sorte que cette utopie désirante, elle mette le couple en mouvement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment on essaye de gagner continuellement, de s'approcher continuellement de quelque chose qu'on n'obtiendra jamais tout à fait.
On a Caroline qui nous dit « Je suis en couple depuis 5 ans et ni mon compagnon ni moi n'avons de désir l'un envers l'autre. Révision, examen, boulot, on fait plus trop l'amour, mais la baisse de libido fait partie de notre vie. Est-ce que vous me conseillez de voir un sexologue ?»
Je dirais que le conseil dépend de ce qui se passe pour eux. C'est-à-dire, est-ce que c'est un sujet ou est-ce que ça ne l'est pas, puisque,
visiblement pas trop, puisqu'elle dit fait oui, partie voilà. de notre vie. Donc,
C'est ça. Donc, à ce titre, moi, il me semble que nous ne devons pas aller dans le sens de l'injonction sociale, qu'il faudrait, sous prétexte qu'ils sont jeunes, qu'ils sont ensemble que depuis 5 ans, consulter absolument un sexologue comme si c'était une obligation de faire. Il y a des couples qui s'organisent en marge de leur sexualité. Peut se poser la question de la sexualité quand tout d'un coup, j'allais dire, le ciel s'ouvre vers d'autres questionnements et du coup leur corps et leur sexe se mettent à l'ordre du jour. Ou alors ce sera un désir de parentalité qui posera la question, et là ce pourra être ou naturellement un chemin à trouver, ou au contraire tout d'un coup un problème identifié, puisque leur couple se sera organisé plutôt en fraternité et pas en posture d'amant et d'amante. Donc la question ne se pose que dans la mesure où elle se pose pour l'un et pour l'autre, et que ce n'est pas une obligation de se mettre en route sexuellement. Encore une fois, au nom de quoi on a besoin de respirer, on a besoin de manger, d'uriner, de déféquer. Faire l'amour n'a de nécessité absolue que dans le sens de la procréation, encore que la PMA puisse encore nous permettre de l'éviter, mais le fait est que ce peut être entendu comme une question de cheminement existentiel ou pas, et ça appartient à chacun bien sûr d'en décider.
Est-ce que, alors on a une autre question, Pascal, public 100% féminin ce matin. Je suis super amoureuse, mais on a une vie de dingue avec mon mari, des horaires de folie, les enfants à gérer. Et en fait, je ne sais pas si c'est un manque de désir, parce que lorsque l'on fait l'amour, ça se passe bien, ou si c'est le manque de temps, et on fait l'amour moins souvent, et ça pèse sur mon compagnon, j'ai l'impression. Que faire ?
Moi, j'ai l'impression que tout est dit.
Vous avez votre réponse à notre question, Pascal.
Ah oui, complètement, parce que elle dit que effectivement leurs relations sexuelles se sont raréfiées, mais quand elles ont lieu, elles se passent bien. Donc j'aurais tendance à lui dire où est le problème.
Donc c'est la qualité qui prime, Pascal. Hein.
Oui. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la normalité, c'est-à-dire que sur le fait que voilà, en tête, on peut avoir l'idée qu'il faudrait faire l'amour tant de fois de telle manière pour que ça soit bien. Après, ce qu'il faut regarder, c'est l'économie relationnelle du couple, comment elle s'organise et quelle place a la sexualité. Et là, moi, ce que j'entends dans ce qui est dit par Pascal, c'est que la sexualité a sa place. Peut-être qu'elle voudrait qu'elle ait plus de place, mais c'est pas le cas pour l'instant. Peut-être que dans 5 ans, ça sera complètement différent s'ils sont toujours ensemble. Mais en tout cas, la sexualité est là et elle est de qualité.
Ceci dit, Pascal dit qu'elle a l'impression que ça pèse sur,
oui,
sur
c'est ça.
Son compagnon. Et là, du coup, ça pose évidemment la question si c'est une impression avec une idée reçue que les hommes ont plus de désir que les femmes, et que les femmes ne sont pas si intéressées que ça par la sexualité, ce qui est évidemment une idée reçue, ou aussi ça pose la question de pourquoi prend-elle en charge l'idée qu'il aurait des besoins auxquels elle ne peut pas, ou
peut-être
pas
des sollicitations, je sais pas, j'interprète là pour le coup, mais
voilà. Et du coup, se positionner en infirmière, c'est-à-dire arriver en réponse tant que faire se peut au désir de son homme, et encore toujours cette question de s'il n'est pas comblé, il pourrait aller voir ailleurs.
D'ailleurs, c'est à ne pas faire ça, Catherine Blanc.
De
se positionner en infirmière, entre guillemets, c'est quelque chose de pas faire.
Non, parce que ça n'est pas le sujet d'un couple, c'est le sujet d'une maman, mais c'est pas le sujet d'un couple et d'une amante. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez, vous le disiez, Christina, vous-même, quand vous annonciez cette autre question, et Pascal qui l'a posée, c'est un sujet qui semble être féminin, comme si le désir n'était pas une histoire d'homme et de femme, mais bien une préoccupation féminine, au prétexte que, comme les hommes ont des érections pas toujours liées à leur désir, des érections parce que physiologiquement, leur corps, ne serait-ce que le matin par exemple, connaît des érections matinales, comme si la question du désir n'était pas une question masculine, à moins, alors pour le coup, quand ils n'ont pas d'érection, donc une gravité absolue pour eux et une inquiétude majeure. Mais la question du désir est bien au-delà d'une érection. La question du désir, c'est la construction pour soi-même, encore une fois, d'une érotisation et d'un projet viril et féminin. C'est aussi une construction d'un langage corporel du couple. C'est une conversation, la sexualité, qui se fait sans mots, qui se fait dans le corps, qui se fait dans les caresses, qui se fait dans les regards, caressant les corps et les sexes se rejoignant. Donc c'est toujours curieux de voir que très souvent, ce sont les femmes qui prennent à bras le corps ce sujet, qui se questionnent et qui questionnent plus l'inquiétude qu'elles ont quant à leur désir, pour leur homme, plutôt que l'inquiétude pour elles-mêmes.
C'est ce qu'on a pu constater ce matin dans l'émission, puisqu'on a eu des questions essentiellement féminines. C'est déjà la fin de cette émission. C'est passé très très vite. Merci à tous les deux, Alain Héril, merci Catherine Blanc d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous pour vos questions. Et si vous voulez retrouver cette émission, bien sûr, ça sera sur notre site internet en podcast France Bleu RCFM, et vous pouvez la commenter bien entendu sur nos réseaux sociaux.
France Bleu RCFM.